19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir à tous, chers amis auditeurs, les informés, vous savez, on continue dans cette émission, l'émission spéciale, les informés, avec cette émission spéciale consacrée au séisme au Maroc. Oui, chers amis auditeurs, vous pouvez intervenir au 01-43-48-3000, 01-43-48-3000, vous intervenez. Alors au sommaire, au menu de cette émission, ce que je vous propose, évidemment, c'est de revenir sur l'actualité avec donc à la fois le séisme au Maroc, nous aurons une série de personnalités politiques. Mohamed Zidou sera avec nous. Alors lui, c'est le patron, le président du comité de l'amitié Maroc-France de la Chambre des conseillers, autant dire le Sénat. Ensuite, nous irons accueillir Rodolphe Pedro, qui lui a été nommé par le palais, par le roi Mohamed VI, chargé d'investir au Maroc, et il viendra donner son point de vue, nous parler de son vécu au Maroc, mais surtout il a perdu quelques amis durant ce séisme. Nous parlerons aussi également avec Salah Bourdi. Salah Bourdi, vous le connaissez, c'est Eugène Delacroix, le patron, donc c'est le président, qui viendra nous parler de la chose politique. Et puis, vous savez, Emmanuel Dupuis, qui est le président de l'IPSE, est avec nous sur le plateau. Il viendra nous faire part, évidemment, de la dimension des enjeux qu'attendent le Maroc en ce moment. Et puis nous parlerons aussi de la Libye avec Emmanuel Dupuis. La Libye qui, elle, a connu de terribles inondations en Libye, vous le savez. L'ampleur des dégâts, quand on voit ça vu du ciel, c'est terrible, chers amis. Ces impressionnantes images à la fois de ces inondations à l'origine de la catastrophe. Eh bien, sachez-le qu'en Libye, on en parlera aussi tout à l'heure, parce que c'est aussi un drame, une tempête dévastatrice qui a tout emporté. Les images du désastre, un peu comme le Maroc, effectivement. Voilà le sommaire et le programme que je vous propose ici même, vous le savez, dans les informés, avec cette édition spéciale. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, et plus que jamais en toute liberté d'expression.
Les informés. Les informés. Le face-à-face.
Et le face-à-face, vous le savez, je vais d'abord saluer notre ami et puis surtout débatteur Emmanuel Dupuis. Bonsoir. Celui qui fait la tournée des médias. Comment ça va, mon cher Emmanuel Dupuis, monsieur le président de l'IPSE?
Ça va. Évidemment, on aurait souhaité, j'aurais souhaité être là dans des configurations plus positives. Hein. Évidemment, nous sommes en pleine solidarité avec les Marocains et les Marocaines sur place et puis leurs familles ici en France. On va essayer d'en débattre pour voir
quelles sont les dernières infos que l'on vous a communiquées.
Elles sont pas réjouissantes. Oui. En tout cas, il faut solliciter en tout cas qu'il y ait une coordination de l'aide. Ça, c'est une chose que certains médias ont abusivement exploité comme une marque de l'impréparation des autorités marocaines. Mais je crois qu'il faut quand même rappeler qu'on est dans une région un petit peu particulière, qui est une région en altitude. La région d'El Aouz se situe dans une zone très enclavée du Maroc. Hein. C'est bien là que se situe le point culminant à près de 4160 mètres d'altitude.
C'est là où il y a le plus de morts.
C'est précisément là où les routes sont impraticables. Donc il y a aussi une conjoncture un peu particulière qui fait que c'est particulièrement difficile. Dit autrement, on y reviendra peut-être avec l'actualité aussi tragique en Libye, le séisme n'a pas seulement touché Marrakech, il a touché des zones qui sont pour l'instant difficilement accessibles, à défaut de routes, ou évidemment que par la voie des airs, on est loin d'un port. Elles ont notamment été détruites.
Je vais prendre quelques auditeurs, si vous voulez bien, un peu comme ça au 01 à la volée, hein, 01 53 48 3000. Allô, bonsoir, vous appelez comment et vous nous appelez d'où précisément?
Oui, bonsoir.
Bonsoir, quel est votre prénom et vous nous appelez de quelle ville?
Henria de Lyon.
Henria de Lyon, on vous écoute, bienvenue chère Lyonnaise.
Eh bien, écoutez, je suis tout cœur avec les Marocains et les Marocaines. Et puis, c'est vraiment catastrophique.
Effectivement.
Voilà, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Et puis, soutien, vraiment un gros soutien au peuple marocain.
Eh bien, merci, Henria. Merci pour évidemment votre solidarité. Vous pouvez venir donner votre point de vue sans évidemment en toute liberté d'expression au 01-53-48-3000. Prenez soin de vous et du côté de Lyon. Merci Zakaria de Toulon. Bonjour Zakaria, bonjour.
Bonsoir Adil.
Bonsoir, bienvenue.
Merci à vous. Écoutez, déjà, je voudrais adresser mes premières pensées les plus chaleureuses et mes sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu des proches. Et aussi mes pensées pour la Libye qui...
Exactement, la Libye qui est en train de vivre le désastre, hein, pareil.
C'est,
hein.
C'est terrible, cette tempête
dévastatrice qui a tout emporté. Hein.
Terrible.
On parle, vous savez quoi, Zakaria, on parle d'hécatombe, vous rendez compte, en Libye, d'hécatombe. Hein.
Ah non, mais c'est une horreur, vraiment, moi je suis attristé quand je vois ça. Mais vraiment, j'ai toute ma compassion, toute empathie avec eux, parce que c'est des drames, franchement c'est un drame, et je pense que ça va être encore plus lourd que le Maroc. Enfin voilà, mes sincères pensées à eux aussi.
Ouais. Il y a Emmanuel Dupuis qui souhaite
Bien évidemment, être en pleine compassion aussi avec les Libyens. On parle de 10 000 morts, hein. Non pas qu'il y a une concurrence du nombre de victimes, entre 3 000 et 10 000, peu importe. Mais ce qui est vraiment terrible en Libye, c'est que à cette crise humanitaire et cette crise liée au dérèglement climatique, il y a une crise politique. Car la principale zone qui a été touchée, c'est principalement des zones dans lesquelles il y a une sorte d'opposition politique, pour ne pas dire armée par le passé, entre les autorités de Tripoli et de Benghazi, qui se renvoient la balle de l'inaction. Et donc, du coup, ça complexifie encore plus les mesures et les mesures d'urgence et le geste d'aide internationale. Donc on est dans une autre configuration du Maroc, mais là aussi il faut avoir à l'esprit que ce qui se passe en Libye, ce qui s'est passé au Maroc, ce qui s'est passé au Portugal l'été dernier et encore cet été en Grèce, ne va que s'accélérer, le dérèglement climatique.
Exactement, s'accélérer. Zakaria,
l'espace méditerranéen.
Il fait bien de dire ça, et c'est pour ça que j'ai bon espoir pour le Maroc, parce qu'on voit la solidarité, on voit le gouvernement qui s'est mis en place, et j'ai bon espoir qu'on va s'en sortir, mais c'est vrai que la Libye, à cause de cette instabilité à la politique, on a peur pour eux, quand on s'inquiète vraiment pour eux.
Là, on peut s'inquiéter, vous avez raison, Zakaria, parce que, comme le rappelait Emmanuel Dupuis, il y a une instabilité politique, parce qu'il y a une espèce de concurrence, de rivalité entre, d'un côté, vous savez, Tripoli et de l'autre, Benghazi. C'est vrai, mais merci Emmanuel de le rappeler. Et en plus, c'était pas le moment pour eux, parce qu'effectivement, cette tempête a violemment balayé, vous savez quoi, un certain nombre de... C'est le dérèglement climatique, hein, qui est en marche désormais, hein, Zakaria. Hein.
On peut dire que ça, hein. Et puis moi je voudrais balayer là toutes les histoires de harp, de je sais pas quoi là, de complotisme ou je sais pas quoi, je pense pas qu'on est là. Et là on voit bien les dérèglements climatiques, les réchauffements, et voilà, hein, c'est la nature, et quand elle reprend ses droits, tout peut partir en un instant, hein. La preuve au Maroc, ça a pris 20 secondes pour que les gens perdent toute leur vie.
Moins d'une minute, effectivement. Moins d'une minute.
Donc voilà, et puis il faut arrêter les bêtises, C'est le dérèglement, c'est les réchauffements, c'est comme ça, c'est la nature.
Exactement. Merci Zakaria de Toulon. Ça. Merci à vous. Hein.
J'avais juste un petit message, moi c'était l'objet de mon appel. Oui. Juste par rapport à la polémique là, que crée la France, en disant ils sont vexés. Oui. Voilà, je voulais juste dire ça. Je trouve ça un peu déplacé de la part des Français. Oui. C'était pas le moment. Je vais pas m'étaler, mais c'était pas le moment d'avoir ce type de polémique. On sent bien qu'ils ont été vexés. Mais voilà, ça veut pas dire que les autres pays à qui on a fait appel à l'aide, ils sont pas opérationnels. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu la France qu'on va pas s'en sortir. Oui. Et je pense que le Maroc a besoin de temps pour coordonner tout ça.
Vous avez bien fait de mettre, évidemment, le pied dans ce sujet extrêmement sensible. Merci Zakaria de Toulon d'être intervenu.
Merci à vous.
Dupuis, je vous pose la question, effectivement, polémique d'un côté, du côté de la France, polémique de l'autre côté aussi, parce que Rabat, paraît-il, a refusé, alors je sais pas si c'est bon, puisque, paraît-il, c'est pas un refus, ni du côté d'Alger, ni du côté de Paris. Expliquez-nous, vous qui êtes effectivement dans les rouages.
Moi aussi, cette polémique m'exaspère et en même temps, elle est profondément banale. Dans le sens où, si on regarde la manière dont les journalistes traitent l'affaire, je mets de côté évidemment le traitement limpide et déterminé de Beurre FM. Mais vous avez d'un côté des journalistes qui ne parlent pas du séisme, qui parlent de la relation entre la France et le Maroc.
C'est ça.
Expliquant que c'est parce qu'elle est voilée, disons-le diplomatiquement, que l'aide ne vient pas. Ce qui est faux. Ça a été rappelé par l'interlocuteur précédent, par Zakaria de Toulon. Il y a une soixantaine de pays qui ont fait une demande. Pour l'instant, il y en a quatre, parce que la coopération était déjà établie.
Donc il n'y a pas de polémique.
Il n'y a pas de discrimination à l'aide humanitaire. D'ailleurs, il n'y a que les Français qui s'en offusquent. Ni les Américains, ni les Italiens, ni
faisons
les
un focus sur. Alors, il n'y a pas de polémique. Emmanuel Dupuis, vous présente de l'IPSE. Il n'y a pas de polémique à l'égard donc de la France, ni à l'égard d'Alger, en direction de l'Algérie. Parce qu'on voit tout ce.
L'Algérie a fait un communiqué.
On voit les commentaires sur les réseaux sociaux, ça commence à évidemment.
Soyons clairs. L'Algérie a fait un communiqué dans les premières heures, en disant qu'elle se tenait prête à aider le Maroc si le Maroc lui en faisait la demande. La difficulté, c'est qu'il n'y a plus de relations diplomatiques depuis l'été 2021 entre les deux pays. Et donc, d'une certaine façon, ça règle le problème. Alors, il y a eu quelques éléments laissant à penser que l'Algérie n'était pas tout à fait conforme à sa volonté d'aider. Mais, encore une fois, tout cela reste à vérifier, à savoir que l'espace aérien algérien est fermé. Mais encore une fois, c'est dans la lignée de la fermeture des deux espaces aériens aux appareils algériens et aux appareils marocains. Pour revenir à la polémique concernant la France, il n'y a pas d'ostracisme, je le répète, et il faut insister là-dessus, contre la France en particulier. Une soixantaine de pays ont officiellement proposé leur aide humanitaire. La France a proposé de coordonner, on en est maintenant à 100 millions d'euros d'aide, non seulement d'humanitaire, mais pour la reconstruction, il faudra y penser. Et pour l'instant, il faut se réjouir que quatre pays sont déjà actifs. Rappelez quand même le Qatar, cinq pays, le Qatar, la Jordanie, l'Espagne, la Grande-Bretagne, les Émirats Arabes Unis.
Merci de nous rappeler ça. Reste avec nous, Emmanuel Dupuis, vous êtes avec nous donc jusqu'à 20h. Je vais aller accueillir tout de suite un autre invité, c'est Rodolphe Pedro, un investisseur justement au Maroc, un investisseur d'ailleurs qui a été contacté par le palais, par le roi lui-même. Hein. Expliquez-nous tout d'abord. Bonsoir, bonjour Rodolphe Pedro.
Bonjour Adil Farkan, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Alors, juste pour placer un peu le décor, vous êtes un investisseur au Maroc, vous connaissez très bien le Maroc. Le Maroc est un pays d'adoption vous avez beaucoup investi et vous avez été notamment sollicité là, il y a encore quelques années, par le roi, pour parce que vous êtes évidemment dans le cadre d'une convention signataire pour un investissement au Maroc. Hein, c'est bien cela?
Oui, je suis signataire du nouveau plan d'investissement dans le cadre du textile qui était présidé par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Alors ça, c'est mon statut.
Alors vous êtes, si j'ai bien compris, considéré évidemment comme un Marocain d'adoption. Comment avez-vous vécu ce terrible séisme? Parce que je sais qu'après on va en parler, je vous pose la question. Quelques-uns de vos amis, vous nous donnerez des nouvelles justement tout à l'heure. Première question. Quels sont les premiers éléments que vous avez concernant ce terrible séisme?
Écoutez, d'abord, avant tout, j'ai une pensée pour les milliers de victimes de cette catastrophe. Car derrière cette comptabilité morbide, ce sont des enfants, des femmes et hommes, des amis, famille pour certains, que nous avons perdus. Ça, c'est la première des choses. Nous faisons état de chiffres. Mais n'oublions pas que ce sont des hommes et femmes. Maintenant, notre devoir, notre priorité, est d'appeler et apporter toute l'aide possible à ces victimes. À ce titre, les besoins en première nécessité sont multiples. Les médicaments, les vêtements, les couches, les biberons sont un besoin récurrent. Oui. Les couvertures, pour ma part, j'appelle aux dons auprès de mes confrères et amis du textile, afin d'apporter des couvertures en nombre.
Oui, c'est vrai, parce que ça a été une des priorités, oui.
Oui, les nuits sont très froides dans le Haut Atlas. La neige est attendue dès octobre prochain. Comprenez bien que les gens sont dehors, dorment dehors, sans rien. Donc, il nous faut intervenir, tous et toutes, bien entendu, la solidarité.
Donc là, vous lancez un appel, j'ai bien compris, à vos collègues, chefs d'entreprise, et dans le textile notamment au Maroc, mais pas que, y compris aussi en Europe et en France, pour agir immédiatement, y compris donc pour des couvertures, des tentes, notamment pour celles et ceux qui sont dans le besoin. Rodolphe Pedro.
Chacun apporte dans son secteur d'activité une aide. Pour moi, la facilité, ce sont les couvertures, dont qui est une nécessité première. Et j'appelle, je le répète, à mes confrères et amis du secteur textile de se mobiliser pour cet appel aux dons. Nous devons tous et toutes conserver l'essence même de notre existence, Adil, soit notre humanité dans ces cas.
Rodolphe Pedro, je sais que vous avez perdu des amis dans le cadre de ce terrible séisme qu'a vécu le Maroc. Vous pouvez nous en toucher quelques mots, Rodolphe Pedro, parce que je sais que vous êtes peiné notamment.
Écoutez, le Maroc, pour moi, c'est au-delà d'un cadre d'investissement. C'est le pays de ma famille, de ma belle famille, d'amis qui me sont chers et qui sont perdus aujourd'hui. Nous n'avons plus de nouvelles de certains. Je connais très bien cette région, j'y ai habité à Marrakech pendant quelques années. C'est une région magnifique, mais c'est une région de montagne. Et si vous voulez, je voudrais rebondir sur les multiples polémiques que j'ai pu lire ou entendre sur le gouvernement marocain, autant sur les rapports avec l'État français que sa communication en interne. La première chose, n'oublions pas qu'en droit international public, les États sont souverains dans leurs affaires intérieures, afin d'éviter d'abord les ingérences. De plus, connaissant cette région, elle est très enclavée. Je crois que trop d'intervenants pourraient causer un mal plus important que le remède. Et cela pour des raisons tout simplement techniques. Comprenez qu'un engorgement des routes de montagne ou aéroport serait une catastrophe. Pire. Néanmoins, il y a urgence. C'est évident qu'aujourd'hui, il y a urgence. Mais il est clair que les relations diplomatiques ne sont pas au beau fixe. On le sent, nous, étrangers et non étrangers, car entre ces deux pays. Car la position de l'État français actuel sur le Sahara marocain n'a pas aidé.
Oui.
Pas plus que la politique des visas. Aujourd'hui, nombre d'amis hommes d'affaires, des gens qui avaient leur visa par le passé, ne peuvent plus aller en France, par exemple. De là à attaquer la façon de communiquer du roi Mohamed VI sur cette catastrophe, je pense réellement que c'est hors cadre.
Oui. Qu'est-ce que vous avez on a encore beaucoup d'invités, mon cher Rodolphe Pedro. Qu'est-ce que vous connaissez très bien le Maroc et je sais que évidemment, notamment vous nous avez rappelé votre belle famille. Justement, qu'est-ce que vous avez envie de dire ce soir à toutes celles et ceux qui vous écoutent en France et partout d'ailleurs dans le monde?
J'ai juste envie de dire que l'heure n'est pas à la politique politicienne, mais à l'urgence de sauver des populations de plus des plus pauvres. Car, Adil Farkan, les personnes ensevelies sous des gravats se moquent de la nationalité de leur sauveur.
Ça, c'est
très clair.
On est d'accord. Ouais. Rodolphe Pedro, un grand merci à vous d'être intervenu. Vous êtes un investisseur au Maroc, notamment dans le textile. Vous avez été donc dans le cadre d'une convention, vous avez été signataire, sollicité par donc le palais, le roi, donc Mohamed VI. Merci Rodolphe Pedro et excellente soirée à vous. Merci. Merci à vous et au plaisir. À bientôt, Rodolphe Pedro. On va marquer une pause et on se retrouve dans une poignée de minutes, chers amis. Juste après, nous irons accueillir quelques auditeurs encore, Grenoble, Paris, et d'autres invités, viendront se retrouver ici dans cette émission spéciale. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir, si vous venez de nous rejoindre, sachez-le, cette émission spéciale consacrée au séisme au Maroc. On parle aussi de la Libye avec ses images, vous savez quoi, terrible, cette tempête qui a tout détruit, notamment une partie de la ville de Darna. On en parlera tout à l'heure avec ces pluies torrentielles qui ont ravagé arbres, maisons, immeubles, rues, places, enfin bref. Nous parlons donc pour le moment direction le Maroc, où on va recevoir, vous savez, Mohamed Zidou, qui est le patron, le président du comité de l'amitié de la Chambre donc de l'amitié Maroc-France, la Chambre des conseillers, autant dire, en d'autres termes, le Sénat. Monsieur Mohamed Zidou, bonjour, monsieur le Président, vous êtes avec nous en direct depuis le Maroc. Bonsoir tout d'abord et comment allez-vous?
Ça va, merci. Merci pour l'intérêt que vous portez à notre pays dans ces moments les plus difficiles.
Emmanuel Dupuy est avec nous sur le plateau. Je pense que vous le connaissez également, qui lui est le président de l'IPSU.
Vieux complice.
Ouais. Dites-moi tout d'abord, monsieur le président, vous, Mohamed Zidou, d'abord, quelles sont les dernières nouvelles que vous avez? Je sais que le roi Mohamed VI a été à Marrakech hier, qu'il a rendu visite, donc qu'il s'est rendu à l'hôpital, qu'il a pris le temps nécessaire d'aller rencontrer un à un les victimes. Je sais aussi notamment que il a rencontré quelques acteurs associatifs. Qu'est-ce que vous savez, vous, et qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme dernière information, mon cher Mohamed Zidou?
Bon, ce que vous devez savoir aujourd'hui, c'est que cette tragédie, mis à part le nombre de décès qui ont été comptés à 2900, il y a quand même 5000 blessés. C'est les 5000 blessés, ce qui est extrêmement important, c'est qu'ils ont été pris en charge entièrement dans la région de Marrakech et d'Agadir, avec l'équipe médicale marocaines et tous les moyens ont été mis à leur disposition. En effet, sur les 5000 ont été totalement traités. Il y a eu 73 décès parmi les 5000 blessés qui donnent à peu près 2900 décès, y compris ces 73. Donc il y a eu quand même un impressionnant dispositif médical qui a été mis en place et qui ont, avec un grand professionnalisme, pour faire face à ce genre de difficultés. Vous savez, les difficultés, c'était essentiellement d'extraire les cadavres et de transférer les survivants vers les zones médicalisées. Mmh. Donc, parce qu'il y a eu, quand même, c'était une zone montagneuse, il y avait des difficultés d'accès, il y a eu pratiquement une rupture de route qui me lie à ces zones-là. Donc, il y avait une grande difficulté extrêmement importante, ce qui a rendu l'accès difficile. Et à cette circonstance, je tiens quand même à témoigner ma reconnaissance et ma gratitude à l'autorité civile, militaire et à la Fondation Mohamed VI et aux sapeurs-pompiers, aux médecins, aux cadres paramédicales, à l'armée, à la gendarmerie qui ont fait un travail excellent et fabuleux, extraordinaire pour diminuer d'abord l'effectif des décès et pour essayer quand même de déblayer le champ pour pouvoir avoir un accès plus facile.
Monsieur le Président, vous parliez effectivement de tous ces acteurs. Quand on voit cet élan, cette vague de solidarité à la fois au Maroc, hein, évidemment, on voit bien qu'il y a cette solidarité dont tout le monde parle, y compris sur les réseaux sociaux, qui est sans précédent. Mais surtout, j'ai envie de vous poser cette question, y compris cette solidarité qui vient de l'étranger, France, Belgique, Royaume-Uni et partout d'ailleurs. Comment le Maroc accueille tout cela, mon cher Mohamed Zidou, vous, président du comité de l'amitié Maroc-France, pardon.
Vous savez, d'abord, je voudrais mettre en évidence cette solidarité nationale qui est extrêmement importante. Et on doit la garder parce que ce qui fait un petit peu la force, c'est cette union marocaine qui fait cette force pour dépasser les difficultés qui peuvent être engendrées par des séismes ou par des tragédies équivalentes.
Oui.
Donc, cette solidarité nationale, elle est excellente, elle est extrêmement importante, même sur le plan psychologique, pour les sinistrés qui existent actuellement dans les zones atteintes vers Taroudant, vers le Haouz. Donc, effectivement, il y a aussi Sa Majesté, la symbolique de l'Union, qui fait aussi cet effet d'entraînement, et c'est extrêmement important. Et on a très bien vu hier, Sa Majesté, au chevet des malades. C'est cet rapprochement entre le roi et sa population qui donne encore plus d'enthousiasme pour renforcer cette solidarité afin de faire face et de soulager les sinistrés existants.
Emmanuel,
évidemment,
oui.
Aujourd'hui, si le Maroc a essayé de gérer lui-même les aides venues de l'étranger, c'est parce que il y a une grande difficulté aujourd'hui. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il y a des difficultés sur la route pour accéder et pour transférer toutes ces aides. Il y a un engorgement sur la route qui a rendu même difficile les transferts sanitaires pour les blessés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a toutes les associations du monde, de la Belgique, de la France, de l'Espagne, de l'Italie, de l'Angleterre, de l'Allemagne. Mais il y a une grande difficulté. Mais je pense que le ministère de l'Intérieur, c'est tel qui gère avec les associations locaux pour pouvoir gérer ce genre d'aide et de poser des priorités pour qu'on puisse atteindre l'objectif de l'efficacité.
Mohamed Zidou, Emmanuel Dupuis aimerait échanger avec vous. Emmanuel Dupuis.
Oui, alors évidemment, aller dans le sens de ce qu'a dit Mohamed, rappeler que c'est une des régions les plus enclavées du royaume, que les massifs culminent à 3000, 4000 mètres, que beaucoup de routes ne sont pas goudronnées et, accessoirement, beaucoup de routes se sont effondrées. Donc il faut avant tout veiller à ce qu'il n'y ait pas une deuxième catastrophe, à savoir des accidents qui puissent être provoqués par l'utilisation de moyens limités en termes d'accès à cette région. Deuxième élément, toujours se féliciter de la parfaite symbiose qui a été évoquée entre les autorités, la population et les nombreux élans de générosité, avant tout marocains. Car après tout, je ne vais pas paraphraser le président français, le Maroc est bien un État souverain et que c'est à lui de déterminer quelle est la meilleure façon de prendre en compte l'immensité de la tâche. D'ailleurs, il faut avoir à l'esprit que les 5000 blessés sont là aussi très préoccupant parce que beaucoup sont dans des blessures graves et c'est là où l'action doit être forte. Se féliciter aussi du fait qu'il y faille tendre vers une coordination. La Fondation Mohamed VI pour la solidarité fait ce travail éminemment important et l'aide internationale est bien évidemment bienvenue. Une soixantaine de pays ont proposé des aides, mais ce qui est important, c'est que ce ne sont pas que des aides nationales. Il y a des collectivités locales. Prenons l'exemple de la France, puisque cela intéresse beaucoup les auditeurs. La ville de Montpellier, Mantes-la-Jolie, va se tenir demain une collecte sur le parvis de la mairie de Nanterre. La ville de Lille, Martine Aubry a déclaré aussi sa volonté de mettre à disposition des moyens. Les collectivités régionales comme la Corse, l'Occitanie ou encore la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc un immense élan de solidarité. Alors ma question, et qui est importante, c'est la manière dont maintenant l'aide doit concerner l'aide humanitaire, mais aussi la reconstruction. Car ne pas oublier qu'il faudra bien reconstruire ces pays. Comment est-ce que, Mohamed, d'après vous, la coopération internationale pourra jouer ce rôle tout aussi important que l'aide d'urgence ?
Mohamed Zidou.
Oui, je voudrais d'abord devant l'ampleur des dégâts. Il y avait d'abord, vous l'avez très bien dit Emmanuel, il y avait l'urgence d'abord, c'est de sauver les vies humaines et d'extraire les cadavres. Ceci a été fait, a été réalisé, et je pense que maintenant ils sont en train au moment de déblayer, parce que vous savez, je vous donne un chiffre par exemple, il y a 2783 douars, c'est-à-dire lorsqu'on parle de douars au Maroc, c'est des petits villages qui sont installés dans les sommets. Il y a 2780 dans la province de Taloudin, 2056 dans la province de l'Haouz et 1371 dans la province de Chaouia qui ont été totalement rasés. Et chaque douar ou chaque petit village, vous devez compter le nombre de la population pour avoir une idée si on rassemble la totalité de ces petits villages. Donc aujourd'hui, il y a des villages qui ont été totalement détruits. Évidemment, aujourd'hui, il y a une réflexion, une étude sociologique, psychologique, anthropologue, protologique, géographique, démographique, architectural, urbanistique et économiste ont vu de définir les conditions d'un regroupement cohérent, bien expliqué et accepté par la population. Parce qu'aujourd'hui, et je pense que ça, c'est le ministère de l'Intérieur et de l'Habitat qui vont pouvoir fixer, parce que comme l'a dit Emmanuel, on est au moment de reconstruction, de la reconstruction. Et c'est là où on aura besoin nos amis, nos alliés, pour pouvoir leur donner les objectifs qu'on doit atteindre.
Alors Mohamed Zidou, vous parlez d'amis, vous parlez justement de ce besoin nécessaire de tendre la main. J'ai envie de vous poser cette dernière question avant de vous libérer, mon cher Mohamed Zidou. Vous qui êtes le président de justement le groupe d'amitié Maroc-France concernant la Chambre des conseillers, qu'est-ce que vous pouvez dire comme sur cette diplomatie justement entre la France et le Maroc, cette pseudo ou cette polémique qui a été beaucoup commentée sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous voulez dire vous ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire et qu'est-ce que cela vous inspire ?
Bon, je pense que je ne vais pas généraliser. Il y a certains médias exactement pour dire qu'ils sont là pour sont en train d'intoxiquer une relation. Vous savez, la relation entre le Maroc et la France, et vous le connaissez mieux que moi, Emmanuel, c'est qu'il y a une relation historique qui est basée sur le respect et sur l'amitié. Et c'est une relation qui a été toujours entreprenante. Aujourd'hui, il y a un problème que le groupe d'amitié, aussi bien France-Maroc que Maroc-France, essaie de faire de part et d'autre pour réchauffer un petit peu les relations.
Oui.
Mais je pense que les médias, certains médias en France, ils sont en train d'intoxiquer encore plus cette relation.
Bon. Alors, mon cher Mohamed, comme je suis pris par le temps, parce que ça va très très vite, alors c'était pas Emmanuel qui vous posait la question, c'était moi-même le journaliste donc de désinformer Adil Farkan. Dites-moi, dernière question, Mohamed Zidou, qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un message vraiment auquel vous pensez et qui est très important en direction des victimes ?
Je voudrais d'abord dire qu'on remercie le monde pour leur solidarité. Et on remercie aussi tous nos amis et alliés qui ont soutenu la population, soit par des messages, soit par des aides directes, soit par des associations, l'association des ONG. Aujourd'hui, on est dans une situation où on sent que le monde entièrement était solidaire avec le Maroc. Ça, c'est un point extrêmement important. Je voudrais dire aussi pour les médias français, il faut continuer à soutenir le Maroc dans les tragédies qui existent, mais pas en train de créer des problèmes et d'aggraver et d'élargir et de faire de cette relation qui lie le Maroc et la France une relation, la rendre dans une relation.
Et d'une phrase, d'un mot, vous savez, aux franco-marocains, aux franco-maghrébins, qu'est-ce que vous leur dites ?
Bon, je leur dis, pour les franco-marocains, d'abord, chacun c'est notre ambassadeur. Donc ça, ils sont en train de faire un travail fabuleux, fabuleux. Les aides qui ont été acheminées vers le Maroc par ces franco-marocains sont extrêmement importantes. Et ça, on revient toujours à cette solidarité des Marocains qui ont fait leur force.
Merde.
Mais je voudrais conclure par une phrase qui est extrêmement importante, et vous m'excusez.
Ah,
c'est qu'aujourd'hui, on aura besoin des aides, les amis. Et celles-ci doivent être toutefois, doivent répondre à un réel besoin. Il faut, tout en s'éloignant de toute instrumentalisation politique. Mmh. Je voudrais dire que le Maroc, comme l'a dit Manuel, est un pays souverain. Le Maroc est un pays qui a connu un développement extrêmement important.
Oui. Et
la
Merci.
De gérer ce genre de catastrophe.
Merci.
On le fera en priorité.
Merci.
Et deuxièmement, on le fera avec l'aide de nos amis.
Merci. Merci Mohamed Zidou. Merci à vous. Vous êtes le président du comité de l'amitié, donc de la Chambre des conseillers Maroc-France. Merci infiniment et au plaisir de vous recevoir ici. Merci Mohamed Zidou. Merci Monsieur le Président. Omar, je lance la pause, vite, rapidement, parce que j'ai mis en retard tout le monde. Et on va retrouver Salah Bourdi. À tout de suite après la pause.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Il est 19h45, si vous venez de le retrouver dans cette émission spéciale consacrée au séisme au Maroc. Mais vous savez, on prend le temps de parler de ce qui s'est déroulé en Libye avec ces horribles images de la tempête qui a détruit notamment une partie de la ville de Derna. Ces pluies qui ont tout ravagé, tout emporté. On en parlera aussi avec Emmanuel Dupuis. Tout de suite, on accueille Salah Bourdi. Salah Bourdi, bonjour.
Je peux le saluer aussi ?
Oui, voilà. Bien sûr.
Bonjour, bonsoir. Salah, Emmanuel Dupuis.
Oui, salut Emmanuel.
Salut Salah.
Salah Bourdi, vous êtes donc un élu, hein, Épinay-sur-Seine, mais surtout le président de l'association Eugène Delacroix. Tout d'abord, vous, en tant que président de l'association Eugène Delacroix, comment vous vivez cette solidarité et comment dirais-je, à votre manière, vous participez évidemment à cet élan ?
Écoutez, tout d'abord, comme beaucoup d'amoureux du Maroc, on a été un peu secoués, c'est le cas de le dire, par ce séisme. On a tous été réveillés pendant la nuit de vendredi à samedi. On a eu des appels des membres de la famille, de nos amis qui vivent au Maroc, pour nous signaler le tremblement de terre. Donc, depuis la nuit de vendredi à samedi, c'est vrai que notre actualité maintenant est rythmée par ce séisme et tous les drames qui s'en sont découlés. On parle de plus de 2500 morts, plus de 2500 blessés graves. Donc voilà, c'était un choc. Et après ça, il y a eu cette émotion où les Françaises, les Français, beaucoup d'amoureux du Maroc se sont regroupés et on voulait apporter une aide au pays. Donc c'est sûr que là, depuis ce jour-là, le téléphone n'arrête pas de sonner, ça fait chaud au cœur, et beaucoup de gens, beaucoup d'associations, beaucoup d'organisations non gouvernementales, des collectivités locales ont pris attache avec le Cercle Jeune de la Croix pour faire ensemble une action humanitaire.
Salah Bourdi, vous êtes un élu, vous avez entendu le président, j'imagine, de la Chambre d'amitié Maroc-France. Vous êtes en lien avec quelques acteurs politiques marocains, et si c'est le cas, qu'avez-vous échangé avec eux justement pour agir concrètement en direction des victimes ?
Alors, j'allais dire, c'est même le cœur de notre action. Le Cercle Jeune de la Croix est une association d'élus de la République pour l'amitié entre la France et le Maroc. Et notre travail consiste à mettre en relation des élus français et des élus marocains pour développer ce qu'on appelle la coopération décentralisée, la coopération entre les collectivités territoriales. Donc, de ce fait, bien évidemment, au Cercle Jeune de la Croix, on a beaucoup d'élus ici en France, et on a également beaucoup d'élus marocains avec lesquels nous avons lié des liens d'amitié. Ce week-end, il y avait une visite de la ville de Tiznit, avec le maire de Tiznit et une dizaine d'élus qui sont venus à Villeneuve-la-Garenne. Ils avaient signé il y a un an leur jumelage, alors plutôt plus exactement une coopération décentralisée. Ils étaient de passage, c'était prévu de longue date. Ils sont venus visiter le forum des associations qui avait lieu, comme dans beaucoup de villes, le samedi 9 septembre. Donc ils ont appris la nouvelle du séisme alors qu'ils étaient ici en France. Et ça a chamboulé un petit peu le programme. Et j'étais donc avec le maire de Villeneuve et le maire de Tiznit lundi soir. Donc bien évidemment, les élus marocains sont très touchés, ils sont sur le terrain, ils sont auprès de la population, le gouvernement là-bas est mobilisé, les acteurs sont mobilisés, c'est, j'allais dire, un drame national là-bas au Maroc, et tout le monde est mobilisé. Et les retours qu'on a des élus, c'est qu'ils sont très touchés par les mouvements de solidarité à travers le monde, notamment ici en France, ils sont vraiment très touchés, et je disais, après le drame, il y a cette solidarité qui fait vraiment chaud au cœur.
Salah Bourdi, aujourd'hui, concrètement, est-ce que, moi je posais la même question au président de la Chambre des conseillers, je vous la pose aussi parce que vous êtes engagé sur ces questions diplomatiques, notamment, je ne vais pas parler de réconciliation, parce que il disait que justement, on ne peut pas parler de polémique. Vous vous dites quoi, vous, président du Cercle Eugène Delacroix ? Entre, évidemment, toute cette polémique qui tourne autour de la France, le Maroc, cette diplomatie ?
Non, moi ce que je dis, c'est que nous, au Cercle Jeune de la Croix, on s'est fixé pour objectif de multiplier les coopérations entre les collectivités territoriales. C'est notre travail numéro un. On est des observateurs de la vie politique, bien évidemment, comme vous l'êtes vous-même en tant que journaliste. Et effectivement, ces derniers mois, il y a eu une sorte de refroidissement des relations entre la France et le Maroc, qui sont dues à un certain nombre de sujets. Le sujet le plus important, c'est la non-reconnaissance par la France du Sahara marocain. C'est un vrai sujet. Nous, au Cercle Jeune de la Croix, on a été très clairs dès le départ. Lorsque nous avons créé le Cercle en septembre 2014, on fête nos 9 ans aujourd'hui. Lorsque nous avons créé cette association, on a été très clairs, c'est écrit dans nos statuts. Nous travaillons aussi pour que les autorités françaises, les plus hautes autorités de l'État, donc le président de la République, reconnaissent la marocanité du Sahara. C'est un fait. Nous avons eu la chance d'être reçus dans les territoires du Sud, les deux régions du Sud, que ce soit à Dakhla ou à Laayoune. Ce sont des Sahraouis qui gagnent les élections, ce sont des Sahraouis qui gouvernent, ce sont des Sahraouis qui se disent marocains, comme les Bretons se disent français, comme les Normands se disent français. Les Sahraouis se disent marocains. Il n'y a pas de sujet sur la marocanité du Sahara. Il n'y a pas de sujet. Il y a eu Éric Ciotti et Rachida Dati qui ont fait un déplacement il n'y a pas très longtemps. Je le dis, je le répète, il n'y a pas de sujet. Donc nous, on remonte cette information ici en France. Puis la France a son agenda. La France a un siège à l'ONU, au Conseil de sécurité. La France a des obligations internationales. Donc le président de la République n'a toujours pas franchi ce pas. J'espère qu'il le fera. J'espère qu'il le fera rapidement. Mais on voit que c'est là qu'il y a le blocage. Et les Marocains, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la France est le pays qui est le plus cher à leur cœur. Il faut le savoir, il faut le comprendre. Pour ceux qui connaissent le Maroc, qui vont régulièrement au Maroc, la France, elle est aimée au Maroc. Le français, c'est la première langue étrangère.
Exact.
Donc quand vous avez un pays que vous aimez, le premier contingent d'étudiants en France, c'est le contingent marocain, 46 000 étudiants marocains. Et pas n'importe lesquels, souvent, je dis bien souvent, les plus brillants du royaume. Les parents se saignent pour envoyer leurs enfants faire des études en France. La France est vue comme un grand pays. La France est respectée. Et quand on voit son ami qui ne veut pas faire cet effort-là, alors que les États-Unis l'ont fait, l'Espagne l'a fait, Israël l'a fait, et d'autres pays, bien, les trois quarts, bien sûr, des pays en Afrique, etc. Écoutez, les Marocains sont vexés un petit peu de se dire « Notre meilleur ami, notre allié n'est pas à nos côtés dans les moments les plus difficiles », ce qui crée un petit peu ce froid qu'il y a actuellement. En plus de ça, bon, vous savez, il y a eu l'affaire Pegasus, il y a eu l'affaire du TGV, il y a eu l'affaire, bon, il y a pas mal d'autres petits couacs, j'allais dire, mais je suis très optimiste, très confiant.
Merci.
Que les relations entre la France et le Maroc vont revenir, très, très chaleureuses et avec des perspectives d'avenir, de coopération extrêmement bon.
Merci Salah Bourdi. Je le rappelle, vous êtes le président du Cercle Eugène de la Croix, mais également aussi un élu sur la ville d'Épinay-sur-Seine. Merci Salah Bourdi.
J'ai pas 30 secondes pour dire ce qu'on fait ?
Rapidement, 10 secondes, parce qu'après je dois donner le mot de la fin à Emmanuel Dupuis. Allez-y.
D'accord. Alors, en 10 secondes, de remercier l'ensemble des élus du Cercle Jeune de la Croix qui ont ouvert dans leur hôtel de ville, dans leur mairie. Donc, je n'aurai pas le temps de citer toutes les mairies, mais ça commence à Antony parce que la ville d'Antony est jumelée avec la ville de Taroudante. Et ça, c'est aussi un travail d'élus qui sont au Cercle Jeune de la Croix. On a mobilisé tous les élus et aujourd'hui, on a des points de collecte, de couverture, de vêtements dans, allez, aujourd'hui, pratiquement une vingtaine de villes à travers la France. Et donc, on a un semi-remorque qui partira dès demain pour Taroudante. Voilà. Je tenais à remercier la Croix-Rouge et l'ensemble des Françaises et des Français qui sont venus déposer des dons dans les points sur lesquels nous récoltons, merci. À savoir donc les mairies.
Merci Salah Bourdi, au plaisir, à très bientôt. Emmanuel Dupuis, on rend l'antenne avec vous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la fois le mot de la fin concernant le séisme au Maroc, mais également aussi, n'oublions pas la Libye.
Alors, un mot d'espoir, quand même. Faire en sorte, évidemment, de sauver le maximum de vies. Ça a été évoqué et par Salah et par Mohamed. Il y a toujours urgence, mais il y a surtout urgence à soigner, désormais, les Marocains qui sont pris en charge dans leur intégralité. Ça a été évoqué. Se féliciter, malgré les petites chicaneries diplomatiques entre nos deux pays, c'est finalement pas très important. Parce que la solidarité fonctionne malgré tout. Les collectivités locales, les élus, avec l'imminent travail et l'important travail du Cercle de la Croix. D'ailleurs, une de vos auditeurs, une de mes collègues, Habiba Bigdalé, qui est secrétaire générale du Cercle Condorcet, a appelé à manifester aujourd'hui sur le parvis de Nanterre pour montrer la solidarité des habitants de cette ville, se féliciter des initiatives personnelles. Mais je crois que c'est important aussi que le symbole soit mis en exergue. Un certain nombre de personnes aimées par les Français. Gad Elmaleh, le humoriste Boudère, Arthur, bien sûr Djamel Debbouze, qui ont pris fait et cause pour l'aide aux Marocains. Et puis un dernier mot, je crois qu'on a tous une responsabilité, tous un rôle à jouer. L'urgence, c'est la disposition de plaquettes de sang, car il en manque. Donc appelons à cette générosité-là aussi, merci, pour Emmanuel, montrer notre empathie envers les Marocains qui souffrent.
Merci Emmanuel Dupuis, merci beaucoup à vous, merci. Je suis désolé auprès des auditeurs parce que évidemment je devais les faire le passer. Promis, demain, je vous retrouve. Vous savez quoi ? Un grand rendez-vous à ne pas manquer ce soir, c'est celui du grand concert de soutien diffusé à la fois sur M6, mais également Beurre FM. Répondez à ce grand rendez-vous, évidemment, ce soir. D'ailleurs, si vous voulez gagner des places, vous pouvez toujours, il me semble, hein, vous cliquez sur le site de Beurre FM et vous allez quoi ? Vous tapez tout simplement Beurre FM. Il y a sur la première page de Beurre FM, je vous le dis, je l'ai sous les yeux, gagnez vos places et vous mettez votre nom, votre prénom et on vous les envoie immédiatement. Ça se passe au Dôme de Paris. C'est à 21h. Rendez-vous à ne pas manquer. Du bon monde, hein, vous savez, c'est Beurre FM est partenaire donc avec M6 pour ce grand concert. Donc je vous le dis d'une phrase. Tous les bénéfices, c'est un concert caritatif exceptionnel en partenariat avec la Croix-Rouge française. On profite du Croissant Rouge marocain. De nombreux artistes ce soir qui sont attendus. Patrick Bruel, Tina Arena, Chimène Badi, Natacha Saint-Pierre, Elisa Tovani, Faudel, Claudio Capeo, Yves Duteil et beaucoup d'autres. Et Kim vous donne rendez-vous ce soir en direct sur Beurre FM, donc pour la retransmission de ce fameux concert. 21h à le vivre sur l'antenne. Ne l'oubliez pas. À demain avec autant de plaisir. Time Sport, c'est maintenant avec Bilal Nenman.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.